padrouille de Maître Renard nous conduisent une fois de plus à la cathédrale de Chartres avec Gilles Fresson et son assistante Laura pour un thème aujourd'hui qui est celui du voile de la Vierge et des pèlerinages. Gilles Fresson nous a déjà conduit à éclaircir les mystères de la cathédrale pour ce qui concerne le labyrinthe en particulier, ainsi que les vitraux. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler plus en détail du rôle du voile de la Vierge, ainsi que des pèlerinages. C'est à Laura, son assistante, que revient la première question. Laura.
Comme vous l'avez dit, quel est le rôle de la, du voile dans la cathédrale ?
Un rôle certainement central. Si le voile de la Vierge, ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui, n'avait pas été dans la cathédrale, nous aurions une cathédrale secondaire, tout simplement, qui aurait été construite beaucoup plus lentement, qui n'aurait pas la même ampleur et dont la vocation spirituelle serait moindre. L'élément central autour duquel est construit le fait que ce sanctuaire, c'est la maison de Marie, voilà. Tout simplement parce que c'est son vestiaire. Voilà, son vêtement est là.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre que les cathédrales ont une importance en fonction de leur trésor à l'époque, lorsqu'ils sont construits, c'est-à-dire qu'en fonction des éléments de saints, de bouts d'os, de reliquaires, et là, nous avons la chance d'avoir un morceau du voile de Marie. De quel voile s'agit-il très exactement de Marie, car elle n'a pas eu qu'un voile, évidemment.
Alors, c'est assez compliqué de comprendre exactement le processus, parce qu'il peut exister à un moment une confusion entre un voile de tête et le vêtement proprement dit. Voilà. Pendant très longtemps, cette relique, dans l'hypothèse d'ailleurs où il y en a bien eu une seule et non deux, puisque c'est une hypothèse qui a été soulevée récemment, pendant très longtemps, cette relique est appelée la Sainte Chemise. Et d'ailleurs, on la figure dans de très vieilles représentations avec deux manches, à la façon d'une chemise à l'européenne, alors qu'il s'agit bien d'un long voile comme ceux dans lesquels s'enveloppent les femmes en Orient, en Palestine ou dans le Sahara, un voile qui, à l'origine, avait 5 mètres de long. Il en reste aujourd'hui 2 mètres sur ces 5 mètres.
D'accord. Et il servait à quoi précisément? Parce qu'il y a une chemise de 5 mètres de long, on ne voit pas très bien. C'est à quelle occasion Marie a-t-elle porté ce voile? Ou aurait porté ce voile?
Alors, elle l'aurait porté, conditionnel, mais pour les gens du Moyen-Âge, il y a là une quasi-certitude, ils y croient. Elle l'aurait porté à la fois à l'Annonciation, quand l'ange vient lui annoncer qu'elle va porter un enfant, à la Visitation, après sa conversation avec Élisabeth, qui est aussi un moment phare de la foi chrétienne, puisqu'il y a cet échange des deux femmes autour de la réalité de la naissance du Sauveur, et aussi qu'elle aurait porté au moment de la naissance de Jésus. Ce qui veut dire que, comme elle l'a au moment où elle est enceinte et au moment où Jésus naît, ça donne à cette relique un rôle éminent, relique mariale, mais aussi relique du Christ, rien de moins. Puisque c'est le voile qui couvrait son ventre quand Jésus était à l'intérieur, pour être extrêmement descriptif. Et c'est un vêtement qui forcément l'aurait touché d'une façon ou d'une autre au moment de la naissance. Et donc, il y a aussi ce lien créé avec le Christ. Alors, sur qu'est-ce qu'est exactement ce vêtement, il faut aller matériellement voir en Orient comment s'habillent les femmes. On peut donner aussi l'image du sari pour les indiennes. En fait, l'essentiel du vêtement, c'est une pièce de tissu de forme à la base rectangulaire dans lequel elle s'enroule en liant par un jeu très complexe de plis, d'agrafes, etc. le vêtement pour en faire voilà.
C'est en quelle matière?
Alors, ce tissu est en soie. C'est de la soie, naturelle, telle qu'on en produisait au Proche-Orient. Alors, anciennement, la soie n'est pas si exceptionnelle dans cette région du Proche-Orient. Et on sait d'ailleurs qu'un certain nombre de femmes aisées ou même issus d'un milieu middle class, mais qui ont envie d'avoir un beau vêtement de fête, avaient effectivement, au moment du 1er, 2e siècle, des vêtements en soie.
D'accord. Et alors, comment atterrit ce vêtement de la Vierge à la cathédrale de Chartres? Parce qu'il n'est pas venu tout seul, je pense.
Alors, originellement, il est à Constantinople. Aujourd'hui Istanbul, la principale ville de l'Asie mineure, où est basé l'Empire romain d'Orient. On dit aussi Empire byzantin.
Alors, on ne sait pas... le Byzance aussi à l'époque.
Oui, on ne sait pas bien d'ailleurs où est contenu exactement ce voile. Son histoire s'éclaircit une première fois quand, aux alentours de l'an 800, l'impératrice Irène, ou peut-être un de ses prédécesseurs, Constantin, offre à Charlemagne ce tissu. Bon, cadeau d'impératrice à un empereur, ça vous donne le niveau du cadeau, et d'ailleurs ça situe aussi cette ce vêtement comme étant un aspect de la réconciliation entre les deux parties du monde chrétien, hein, la partie Orient et la partie Occident. Charlemagne l'a donc à partir environ de l'an 800, par filiation, héritage, il parvient à son petit-fils, Charles le Chauve, et Charles le Chauve l'offre vers 876, avant c'est une date qu'on affirmait de façon très fixe, on est aux alentours de cette date, en 876, donc, à Notre-Dame de Chartres. Depuis cette date, il est resté à la cathédrale.
Bien. Laura, une nouvelle question.
Il y a une raison particulière sur le fait qu'il offre le voile à Chartres.
Ah, passionnante question, qui est d'ailleurs la question de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que c'est un sanctuaire marial? Et parce que c'est sanctuaire marial, on lui offre ce vêtement, hein, qui est le meilleur lieu de dépôt. Ou est-ce que parce que cette offrande royale arrive à Chartres, Chartres devient grand sanctuaire marial? Probablement les deux. On sait par certains documents, très rares mais qui existent, que dès le 7e, 8e siècle, donc avant l'arrivée du vêtement de Marie, on parle déjà de la cathédrale Sainte-Marie de Chartres. On ne dit pas Notre-Dame à l'époque, on dit cathédrale Sainte-Marie. Donc c'est déjà un sanctuaire marial, proche de l'Île-de-France, un diocèse qui est un diocèse vaste et riche, un lieu qui est probablement déjà un grand sanctuaire, et donc Charles le Chauve est incliné forcément à offrir à Chartres cette relique. À partir du moment où il l'offre, évidemment, le sanctuaire chartrain passe à une autre dimension et attire beaucoup plus de pèlerins. Devient beaucoup plus connu aux yeux des fidèles.
Alors à cet égard, je voudrais que vous rappeliez deux histoires de saints, justement, dont les reliques ont permis de faire d'une église une cathédrale. Celle de Tours avec Saint-Martin, vous pouvez nous raconter ça? Et celle, attendez, et celle de Saint-Marc avec la basilique, Saint-Marc à Venise.
Oui. Alors... Pour Saint-Martin, c'est un petit peu différent puisque ce n'est pas la cathédrale qui abritait les reliques, mais une basilique, la basilique Saint-Martin de Tours, qui a d'ailleurs, enfin, qui a disparu avant d'avoir une reconstruction au XIXe siècle. Saint-Marc, c'est différent.
Non, attendez. Sur Saint-Martin, ce qui m'intéresse, c'est la bataille qu'il y a eu entre Poitiers et Tours. C'est ça qui me...
C'est l'aspect anecdotique.
Les fleurs, vous savez.
Dès le moment même où Martin meurt, on sait déjà que c'est une des grandes figures spirituelles de France. Il est quasiment canonisé de façon populaire de son vivant. Et donc, il y a une dispute autour de son corps le lendemain même de son décès. Et les gens de Tours l'évacuent du prieuré où il est, le prieuré de Condes. Aujourd'hui, Camp de Saint-Martin, par une fenêtre, nuitamment, voilà, pour être sûr de ne pas se faire repérer et pour faire échapper le corps au Poitevin.
Pour récupérer le cadavre, en clair.
Oui, tout à fait, mais parce que c'est déjà une relique. et il le raccompagne ainsi jusqu'à Tours. Voilà.
Et il nous reste à parler des fleurs de la Saint-Martin.
C'est sur ce voyage-ci que, sur les bords de la Loire, les rives auraient fleuri. Voilà.
Et donc, alors, on parle de l'été de la Saint-Martin parce que le cadavre aurait été salué par les fleurs. C'est magnifiquement poétique, j'adore.
Exactement. Et c'est vrai que à Chartres, c'est un cas assez différent, parce que vous parliez du mot de cadavre, oui, voilà, le corps. Voilà, on fait attention quand même à parler, effectivement, avec un certain respect de ce qui est un corps sain. Mais
Saint-Marc, je suis désolé, je vous branche là-dessus, c'est aussi un cadavre, et je voudrais que vous me parliez de ce cadavre-là.
Saint-Marc, pour le coup, est détourné d'Orient. Voilà,
mais comment il arrive à Venise, et pourquoi, vous vous rappelez ?
Ah oui, alors, oui, on a plusieurs versions légendaires du fait. Mais attention à ne jamais oublier qu'il y avait aussi beaucoup de vols. Il y avait beaucoup de trafic.
Absolument.
Alors, encore une fois, Chartres, en fait, c'est assez différent. Pour deux aspects. D'abord, la donation est claire, assez transparente. D'ailleurs, personne n'a disputé ensuite cette relique à la cathédrale de Chartres. La relique est d'ailleurs restée de façon immémoriale pendant des siècles à la cathédrale. Et puis, ce n'est pas une relique, justement, touchant au reste physique de quelqu'un. Alors, de fait, si c'est une relique mariale, Marie a rejoint ce qui est aujourd'hui, dans le dogme chrétien, le ciel. Et si c'est une relique christique, par définition, nous n'avons qu'un reste du Christ, puisque c'est contraire à la foi, à la simple lumière de la résurrection.
Cela dit, on a des bouts de croix qu'on peut en faire des kilomètres de croix.
Ce qui est vrai, c'est que les reliques dites majeures, ce sont les reliques qui ont touché le Christ.
Ou comme Saint-Marc, les apôtres.
Alors, oui, mais on n'est pas dans ce cas-là, on n'est pas dans les reliques majeures. Voilà.
Ah bon ? Non, Saint-Marc, c'est pas une relique majeure.
Non,
Venise, c'est pas une relique majeure.
Ce qu'on appelle les reliques majeures, c'est les reliques qui ont touché à la personne du Christ.
Alors, ça va être une relique minable. Non, Saint-Marc, c'est important.
Voilà. Mais on est bien avec le vêtement de Marie, le voile de la Vierge, on est bien justement dans la zone limite. D'ailleurs, il souhaitait qu'elle y soit inscrite dans la tradition chrétienne. On est bien aux limites des reliques majeures. Et dans les reliques majeures, vous avez le Saint-Suaire, vous avez la couronne d'épines, vous avez également le calice que portait le Christ lors du dernier repas, toute la tradition du Graal. Vous avez également des choses plus inattendues, comme les bras de Siméon, puisque Siméon a eu a eu Jésus, il l'a recueilli dans ses bras quand il l'a vu au temple de Jérusalem. Ses bras deviennent reliques majeures puisqu'ils ont touché la personne même du Christ. On pourrait ajouter d'ailleurs également, d'une façon très curieuse, les cheveux de Marie-Madeleine. Vous voyez, tout ce qui a été en contact immédiat avec la substance corporelle du Christ, puisque c'est bien de son humanité dont on parle à chaque fois.
Laura, vous m'êtes témoin qu'il est en train d'essayer de le cadavre de Saint-Marc, qui m'intéresse beaucoup. Dans quelles conditions était ramené Saint-Marc pour que Venise...
Je vous laisse en parler, moi je ne suis pas un spécialiste.
Bon, alors je vais caricaturer au moins une tradition, puisqu'il devait y avoir 50 traditions, mais Venise avait besoin d'avoir une relique majeure, ou mineure, ou moyenne, enfin une relique quelconque, pour en faire une basilique. Comme ils n'avaient rien à se mettre sous la dent, je traduis, hein, je vulgarise à fond. Ils ont su qu'en Orient, je ne sais plus de quelle ville d'Orient est mort Marc, l'apôtre Marc.
Alexandrie,
voilà, c'est Alexandrie, en Égypte. Et ils ont décidé de faire une razzia, c'est-à-dire d'emmener le cadavre de ce pauvre Marc, de ce pauvre apôtre. Et donc, ils l'ont caché vulgairement sous des carcasses de cochons, puisque comme ça, on était tranquille. Les musulmans n'iraient pas voir ce qui se passe sous cette cargaison de cochons. Vous ne regardez pas comme ça avec des gros yeux. Peut-être vulgarisme, mais enfin, ça peut parler, non ?
Oui.
Et ils ont volé donc le cadavre, ils l'ont ramené à Venise, on en fait une basilique. Voilà comment on fait la basilique de Saint-Marc, qui n'est peut-être pas majeure, mais voilà, il faut, pour qu'il y ait pèlerinage, pour qu'il y ait argent, pour qu'il y ait des pèlerins, que l'on ait des symboles majeurs, et évidemment, que ça soit christique directement, comme le voile de la cathédrale de Chartres pour Marie, que ça soit concernant les apôtres et ou n'importe quel bout d'os dedans pour qu'une église ait des pèlerins, c'est quand même économiquement c'est lié quoi. Il faut qu'il y ait des pèlerins et c'est pour ça qu'on va vous parler maintenant les pèlerinages de Chartres et qu'est-ce qu'il y a comme pèlerin, quelle est la différence entre les pèlerins du Moyen-Âge, les pèlerins de la route de Saint-Jacques de Compostelle. Tout ça, c'est un aspect éminemment, pas seulement touristique, de foi, mystique, si vous voulez, mais il y a quand même une réalité économique derrière. Et par conséquent, si on peut en parler sérieusement en même temps, sauf moi donc, c'est aussi un enjeu très important pour une cathédrale, pour que la cathédrale tourne, entre guillemets, pour qu'il y ait du monde et qu'il continue à y avoir du monde. On est d'accord. Comme le labyrinthe d'ailleurs, comme les vitraux, comme tout ce que vous voulez. Non, on est moins d'accord d'ailleurs.
J'ai
une réserve là.
Non, en fait, il faut rajouter une autre dimension concernant les reliques. C'est une façon d'ancrer dans un passé qui est le passé le plus ancien possible. Et dans la grande tradition d'ailleurs de la religion chrétienne, mais aussi d'autres religions, plus l'ancienneté est proclamée, plus elle est respectable. En vous ancrant, le cas de Venise, sur un apôtre, vous remontez à l'époque du Christ. Chartres a essayé d'expliquer d'ailleurs qu'en ayant ce vêtement de Marie, on remontait à l'époque d'avant le Christ, puisque c'était même l'époque dans laquelle Marie était la Vierge qui devait enfanter, non pas qui avait, qui devait enfanter. Et donc, on remontait au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et, pour le coup, à moi de faire une formule un petit peu taquine, ça veut dire que les chrétiens de Chartres ont essayé d'expliquer qu'ici, dans leur sanctuaire, on était chrétien avant le christianisme. Comme ça, vous étiez sûr de passer avant tous les autres.
Oui, on n'est qu'à 100 km de Paris, donc c'était sur une route facile, donc pour un pèlerinage, c'est magnifique, alors, on est très bien situé.
Oui, sachant que le pèlerinage, il est venu par la suite, avec le fil des temps, mais qu'il s'ancre dans l'idée que, en venant ici, on retouche plus qu'ailleurs aux origines des choses. On s'ancre dans le message christique le plus originel. Et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, pour le coup, des siècles après, la tradition des pèlerinages à Chartres reste marquée par cette méditation sur, on va dire, le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu fait homme parce que Marie dit oui. Et ça reste le centre de l'esprit du pèlerinage de Chartres. Alors, pèlerinage, ensuite, qui s'est exprimé et qui s'exprime aujourd'hui sous des formes extrêmement différentes, avec d'ailleurs des périodes plus ou moins faste, et des périodes dans lesquelles le pèlerinage a subi, on va dire, un certain nombre de retraits, de passages à vide. Il y a des périodes évidemment très variables.
Est-ce qu'il existe des pèlerinages à Chartres, en dehors des pèlerinages de la Pentecôte, ou des pèlerinages pour les étudiants ou les tamouls?
Voilà, d'abord, quels sont les pèlerinages majeurs pour Chartres?
Alors, effectivement, les majeurs, c'est aujourd'hui le pèlerinage des Jeunes d'Île-de-France, qui est un pèlerinage historique qui a commencé dans les années 30.
C'est récent, non?
C'est du XXe siècle, et c'est un pèlerinage qui a eu, au cours des années, particulièrement 50-60, une importance considérable. Une bonne partie des cadres de l'Église de France, à la fois prêtres et laïcs, se sont formés à l'ambiance des pèlerinages de Chartres. On est monté à une époque avec plus d'un quart, près d'un tiers des étudiants parisiens qui matériellement marchaient de Paris à Chartres pour faire ce pèlerinage.
C'est le pèlerinage qui a été initié par Charles Péguy, d'une certaine manière, ou c'est une erreur?
Il s'est inscrit dans la lignée de Charles Péguy. C'est pas lui qui l'a créé, mais les premiers, une vingtaine d'années plus tard, qui ont créé ce pèlerinage, l'ont fait en hommage à Péguy. Donc il y a celui-ci. Il y a un pèlerinage qui a lieu à la Pentecôte, vous le citiez. Alors c'est un pèlerinage, celui-ci, qui est de l'esprit plus traditionnaliste, hein, pèlerinage Notre-Dame de chrétienté. La liturgie est célébrée dans ce qu'on appelle le rite extraordinaire, donc en latin, hein, selon le rite pré-Vatican II. Ce pèlerinage regroupe aujourd'hui près de 10 000 personnes, hein, donc pour le coup le lundi de Pentecôte.
Traditionaliste ou traditionnel au moins? C'est là où il y a beaucoup de Vendéens, c'est là où...
Très attaché à
une tradition.
Oui, à une tradition et à un rôle de l'Église qui s'implique dans les débats aussi de société, hein, pour le respect d'un certain nombre de valeurs. Le mot valeur est très utilisé par le pèlerinage Notre-Dame de chrétienté. Hein, qu'est-ce que doivent défendre, on va dire, des chrétiens dans la société?
Oui, c'est défendre, c'est la défense. C'est oui. Pas l'image moderne de du catholicisme de Thésée, par exemple, c'est opposé.
C'est
une autre branche.
C'est une sensibilité qui l'Église a beaucoup de sensibilité et ce pèlerinage.
C'est la plus réactionnaire encore, traditionnel.
je laisse la porte.
Non mais je traduis parce que.
Non mais alors ensuite c'est vrai que c'est des gens qui sont souvent marqués par une évolution de la société qui les inquiète. Ça on peut le dire.
Voilà, lent, très très lent.
Alors il y a ce pèlerinage-ci. Qui est un pèlerinage, pour le coup, qui a connu un grand souffle spirituel depuis un certain nombre d'années, d'où le nombre, je vous dis, aujourd'hui, près de 10 000 personnes hein, qui se rassemblent.
D'ailleurs, il y a un renouveau.
Venant de plusieurs pays, d'ailleurs.
Oui, il y a un renouveau, oui. Très clairement.
Il y a le pèlerinage des Tamouls. Voilà. Alors, effectivement, le pèlerinage des Tamouls, ça, c'est tout à fait inattendu.
Donc, c'est quoi les Tamouls, pour ceux qui...
Les Tamouls, c'est une population qui habite le sud de l'Inde et le Sri Lanka. Beaucoup sont réfugiés à cause des situations politiques en France, en particulier en région Île-de-France, et ils ont fait de Chartres leur lieu de prière et aussi d'ailleurs de rendez-vous communautaire. On a un grand pèlerinage de l'aumônerie des catholiques des Tamouls du Sri Lanka hein, qui a lieu
dans le sud de l'Inde, donc, et c'est
surtout le Sri Lanka pour ceux qui viennent à Chartres en pèlerinage.
Voilà. Catholiques, ils sont très catholiques.
Et à ces pèlerinages-ci, on pourrait rajouter bien d'autres qui existent maintenant depuis plusieurs décennies et de façon très régulière, chaque année, le pèlerinage du monde du travail. Voilà, un pèlerinage alors, qui, pour le coup, n'a pas la sensibilité du pèlerinage Notre-Dame de chrétienté. On est peut-être complètement de l'autre côté. Un pèlerinage qui a été très marqué par l'action catholique, par le dialogue avec les milieux qui agissaient dans le monde du travail.
Comme les prêtres ouvriers à l'époque.
Ça a été assez lié à un moment au mouvement des prêtres ouvriers et qui aujourd'hui encore est marqué par une idée phare qui est très intéressante, c'est le dialogue entre des gens issus de milieux sociaux qui ne se côtoieraient pas autrement. Et donc, matériellement, dans ce pèlerinage, vous trouvez des chefs d'entreprise et des ouvriers. Voilà. Et qui dialoguent ensemble, non pas uniquement sur leur chemin de foi en direction de Chartres, mais aussi sur qu'est-ce qu'être chrétien dans la vie du monde, dans la vie aujourd'hui sociale.
Et dans le monde économique.
Ouais. Alors, question de Laura, à ces pèlerinages-ci, qui sont les pèlerinages que l'on connaît, que l'on voit, et qui s'annoncent chaque année, à des dates d'ailleurs fixes, souvent, il faut rajouter de très 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 nombreux pèlerinages venus d'horizons extrêmement divers. Alors d'abord d'horizons géographiques. Si on regarde la nationalité du prêtre qui célèbre hein, souvent à Notre-Dame de Souterre, chez nous, la messe, au cours des dernières années, 73 nationalités différentes. 73 nationalités, voilà. Et parmi ces prêtres, vous trouvez, ça, une découverte pour personne, une soixantaine ou 70 prêtres américains. Vous trouvez également plus d'une cinquantaine de Polonais. Mais vous trouvez également des Colombiens, des Philippins, des Péruviens, des Brésiliens. Également des Gabonais, des Camerounais, des Béninois, tous les pays d'Afrique centrale et particulièrement francophones. Et également des Malgaches, des gens venus de l'île Maurice. On part dans l'océan Indien. Également des gens venus d'îles du Pacifique. On a eu des pèlerins venus de Vanuatu, par exemple, ou des îles Nauru. Alors ça, il faut vraiment être faire une géographie pour repérer ces petits états.
Vanuatu, ça va pour qu'on fait rugby, mais Nauru, même
voilà.
Pas.
Et donc, tous ces gens venus de tous les pays du monde, vraiment, voilà, on peut dire quasiment tous les pays, c'est à échelle mondiale, planétaire. Et puis, il y a aussi la diversité... qui s'exprime d'ailleurs peut-être plus encore avec les pèlerins européens et français, diversité aussi d'origine, d'activité, et même aussi de moyens de locomotion. Quelqu'un m'a posé la question il y a récemment, c'est vrai que c'est assez étonnant la diversification des moyens par lesquels ils arrivent. Donc on a, je vous assure que ce n'est pas une blague, on a eu récemment des pèlerins en skateboard, Hein, il faisait les derniers kilomètres en arrivant à skateboard.
Laurent pourrait.
Nous avons un certain nombre de pèlerins à vélo. Alors ça, c'est quelque chose, mais parfois avec des idées tout à fait originales. Certains font le pèlerinage dans la nuit avec des gilets réfléchissants fluo, partant de Versailles en l'occurrence pour eux, au cours de la nuit, nuit d'hiver. Donc il y a aussi une dimension dans ce pèlerinage d'affronter un peu les éléments, et ils arrivent
écrasés.
Le lever du soleil. Donc, à la cathédrale de Chartres.
En taxi.
C'est parfaitement suivi par les services de sécurité, d'ailleurs déclarés aux préfectures des départements qu'ils traversent.
Donc,
vélo, mais vous avez également, on a eu quelques cas de pèlerins qui finissaient leur dernier kilomètre en kayak. On a eu des gens qui sont arrivés en chevaux. Les rollers. Non, mais c'est tout à
pourquoi
fait...
Pourquoi pas.
C'est tout à fait étonnant. Et d'ailleurs aussi montrant que derrière, vous souleviez un peu cette question, il y a toujours une dimension spirituelle évidemment structurante, c'est le but du pèlerinage, c'est d'aller prier Marie, mais qui pour plein de groupes est aussi une façon de relier ça avec une activité qui les passionne, on en a cité certaines, et d'ailleurs aussi avec des points d'attention, par exemple plus écologiques pour certains, qui en profitent sur le parcours du pèlerinage pour observer la nature, des passionnés de botanique ou des oiseaux, certains qui en profitent pour faire un voyage culturel en s'arrêtant dans les différentes églises et différents monuments qui peuvent être sur le parcours. Donc voilà, on a une diversité de pèlerinages aujourd'hui qui est vraiment frappante.
Et personne n'a eu l'idée d'arriver avec un âne, un bœuf et en tenue d'époque, comme Marie et Joseph.
Ah ben ça, c'est l'idée des crèches vivantes. Pourquoi pas? On pourrait faire une crèche vivante pèlerine.
Laura voulait faire Marie.
Non, c'est
moi, je vais pouvoir faire l'âne.
Mais en fait, c'est ce qui est extrêmement frappant, c'est que derrière on, mais d'ailleurs, parce qu'eux-mêmes seraient contents qu'on en plaisante et qu'on vive, qu'on parle de cette expérience de façon souriante, parce que c'est souvent dans une ambiance amicale, souvent un esprit de camaraderie dans lequel se vivent un grand nombre de pèlerinages. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours une épine dorsale qui est très forte et qui est très touchante, qui est: qu'est-ce que j'ai envie de vivre de cette expérience du pèlerinage? Et souvent, c'est très décapant. Je me souviens de pèlerins qui témoignaient de qu'est-ce que vous avez vécu à Chartres, et avec des formules en disant simplement s'asseoir là, penser à qui on est, pleurer et sourire, et retrouver quel est le sens de sa vie. Et disant très clairement, il est bien que dans la vie, il y ait des moments dans lesquels on puisse s'écrouler, se relever, voir au fond, frontalement, quelles sont les choses qui nous angoissent et quelles sont les espérances profondes qu'on porte, échanger, le dire aux autres. Également, c'est l'expérience communautaire du pèlerinage qui est importante, et ça reste furieusement actuel, c'est assez étonnant.
Et c'est ce qu'on disait l'autre jour avec le labyrinthe, c'est quand même un parcours, un cheminement intérieur de toute façon, que l'extérieur renvoie à une requête intérieure, à une recherche et une méditation. Et une quête spirituelle dans soi, en soi, on réfléchit.
C'est quelque chose qui lie profondément l'humain et l'aboutissement de la prière tournée vers Dieu. Et on a toujours cette double articulation qui est fondamentale. Un pèlerinage dans lequel il n'y aurait pas comme but de prier en venant devant Marie à Chartres et le Christ n'est pas un pèlerinage. Inversement, vous lui retirez la dimension d'introspection. Vous lui retirez simplement le fait de profiter de la fatigue du voyage pour être capable de se regarder en soi et de voir à la fois ses faiblesses et ses élévations personnelles. Là aussi, vous retirez ce qui est l'essence même du pèlerinage. Et beaucoup de gens, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines, d'ailleurs certains sont connus, d'autres par milliers sont des anonymes, ont vécu sur la route de Chartres ou à l'arrivée à Chartres une étape décisive de leur vie, en disant tout à coup, tiens, c'est évident, il y a quelque chose que je comprends, je pressentais, c'est jamais une découverte totale, je pressentais auparavant que finalement ma vie s'orientait dans ce sens-là, en ayant fait le pèlerinage de Chartres et en ayant vu les choses en face, en ayant pris le temps, un jour, deux jours, trois jours, de marcher et de penser à cela, les choses me paraissent à présent évidentes. Et donc pour eux, forcément, vous dites Chartres, c'est associé à une marche et c'est associé aussi à un moment important de leur vie.
Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, Laura? Vous avez une dernière question, toute dernière, car on est très juste en temps, si vous n'avez pas, ça m'arrange.
Une toute petite. Qu'est-ce qui menait les gens du Moyen-Âge à faire, par exemple, un pèlerinage à Chartres, si on attribuait des vertus particulières au voile ou...
Alors,
de
oui.
capacité.
Très, très clairement, se mettre en présence de Marie et de tout ce que Marie peut apporter d'aspect positif dans leur vie. Marie, c'est une mère, donc il y avait toutes celles qui voulaient que leur accouchement se passe bien et avoir un enfant qui ait une belle vie. Il y a toute cette dynamique-là. Marie, c'est quelqu'un qui conseille. Donc, il y a tous ceux aussi qui sont à un moment de choix de vie. Ils finissent leurs études, ils finissent leur formation d'apprentissage et ils se disent vers quoi je tends. Et l'idée que Marie sera un conseil, un juste conseil. Et ça, c'est vrai aujourd'hui, comme c'est étonnant d'ailleurs quand on fait les parallèles, comme il y a 8 siècles.
Merci à vous. Merci Laura. Merci Gilles. À une très prochaine fois. Et c'est toujours aussi passionnant de vous écouter. Donc, la prochaine fois, ça sera un nouveau thème dont on n'a pas la moindre idée, mais on vous en parlera dès qu'on aura trouvé de quoi vous éclairer sur un nouveau mystère de la cathédrale de Chartres. On vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt.